Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information sur Europe 1 et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une un verdict historique attendu en fin de journée au procès des attentats islamistes du 13 novembre. 10 mois d'audience et la cour qui s'est retirée depuis lundi. Vous allez entendre le témoignage du père d'une victime et puis on sera dans un instant avec Gladys Laffitte qui a suivi ce procès pour Europe 1. Elisabeth Borne hésite à solliciter le vote de confiance des députés la semaine prochaine. On rejoindra Alexandre Chauveau qui est aux côtés de la Première Ministre. Plus de 1000 hectares détruits dans les Pyrénées-Orientales. Notre envoyé spécial Benjamin Péter est sur place. Nous l'appellerons. Les toutes dernières tendances du marché immobilier. On vous les révèle aujourd'hui sur Europe 1. Le détail avec Élise Dangean. Vous verrez qu'il y a du nouveau. Pouvoir d'achat, déjà des tensions à l'Assemblée nationale. On en parle avec vous au 39-21 et avec Ludovic Mendès, député Renaissance de la Moselle, et avec Hugo Bernalicis, député NUPES LFI du Nord.
Europe 1.
Le dénouement d'un procès historique, celui des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, au Stade de France. Près de 150 jours d'audience et un verdict attendu en fin de journée. On parle dans un instant de la façon dont va se dérouler cette journée de délibéré. Mais avant cela, je voulais vous diffuser ce témoignage. Celui de Jean-Bernard Arouébo. Il a perdu sa fille Anne-Laure sur la terrasse du café La Belle Équipe le soir des attentats. Qu'attend-il de ce verdict ?
Que la justice passe et que la justice soit sévère, si je peux ajouter un commentaire. La perpétuité incompressible, oui, si le président et la cour estiment qu'elle est adaptée à certains des accusés. Et les faits sont trop graves pour qu'on accepte des excuses. Depuis le 13 novembre 2015, des gens sont rentrés par effraction dans notre vie. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous survivons. Nous sommes condamnés à perpétuité. Vous savez, le procès, pour nous, c'est pas la fin. Notre quotidien continue. Nous allons continuer à porter des fleurs sur la tombe de notre fille une fois par semaine. Nous allons côtoyer ses amis. Nous allons continuer avec nos souvenirs.
Voilà ce père de victimes qui attend donc le verdict qui sera rendu public en fin de journée. Gladys Laffitte, bonjour.
Bonjour Romain.
Service police-justice d'Europe 1 avec nous. Gladys, les 5 magistrats de la cour d'assises spéciale sont enfermés depuis lundi dans un lieu tenu secret. La période de délibération prend fin donc aujourd'hui. Certains accusés, dont Salah Abdeslam, risquent la prison à vie.
Oui, 10 peines de réclusion criminelle à perpétuité ont été demandées par le parquet national antiterroriste. Certaines accompagnées de périodes de sûreté allant de 22 ans à l'incompressibilité pour Salah Abdeslam. La cour peut décider d'aller en dessous, mais aussi de suivre ces réquisitions. Pour Salah Abdeslam, ça voudrait dire qu'il ne pourrait pas faire de demande d'aménagement de peine pendant au moins 30 ans et sous certaines conditions. On parle juste de demande, hein, pas d'acceptation. Par exemple, Michel Fourniret, le tueur en série, avait été écopé de cette peine, mais il était déjà âgé. Salah Abdeslam a 32 ans aujourd'hui, tout comme d'autres accusés qui ont aussi la trentaine et qui risquent la réclusion criminelle à perpétuité.
Gladys, une fois le verdict prononcé, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors déjà, la lecture de ce verdict prendra du temps, au moins 3 heures, nous dit-on. On ne sait pas à partir de quelle heure il sera lu. Pour cela, il faut que la cour soit arrivée à une décision pour chaque accusé et on saura à la toute fin les peines qui seront prononcées. Certains accusés retourneront en prison et peut-être que d'autres seront libérés s'il y a des acquittements. À l'inverse, les 3 accusés qui comparaissent libres pourraient aller en prison car 5 à 6 ans ont été demandés contre eux et ça ne couvre pas forcément la détention qu'ils ont déjà faite. Ensuite, un délai de 10 jours s'ouvre durant lequel les condamnés pourront faire appel, tout comme le parquet national antiterroriste, soit pour certains accusés, soit pour tout le monde. Et c'est le nombre de ces appels qui déterminera la longueur du futur procès, si procès en appel il y a.
Gladys Laffitte, merci Gladys. Dans le quartier du Bataclan, dans celui des terrasses où la barbarie islamiste a frappé le 13 novembre 2015, cette journée de verdict est forcément particulière. Les habitants qui ont vécu l'horreur de près attendent des peines à la hauteur de leur émotion, toujours immense bien sûr. Reportage Europe 1 dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale, signé Marion Gauthier. Écoutez.
Les yeux plissés pour lire les inscriptions sur la porte du Bataclan.
Je vois le mot love et des cœurs.
Laurent hésite à entrer dans le café mitoyen, se décide.
C'est très très émouvant. J'attends ce verdict et je sais bien qu'il ne sera pas définitif et qu'il y aura probablement un appel. Mais il faut que la justice passe.
Ils doivent être punis.
Un soulagement envisagé par certains, la fierté déjà pour d'autres qu'un tel procès s'achève.
Autrement, on n'est plus dans une société démocratique.
L'ancien voisin de la salle de spectacle.
J'ai souvenir d'une femme partiellement couverte par un drap, et puis vous voyez ses jambes, et elle était à prendre un café là. Je me suis dit, bah, eux ils sont morts, bah, nous on va vivre de quoi plus, pour compenser la mort.
Impensable de vivre au rythme des audiences. Autour des bars ciblés par les terroristes, la vie recommençait au forceps. La plupart des témoins sont partis ou restent muets, souligne un serveur du Carillon.
C'est trop lourd, qu'on oublie un petit peu et on passe à autre chose.
On ne tournera jamais la page.
Hicham, 20 ans de terrasse dans le quartier, désigne la plaque commémorative au coin de la rue.
Quand on vient boire le café, on fait vivre leur mémoire.
Quelles que soient les peines, elles seront insuffisantes, cingle-t-il. Elles ne ramèneront personne.
Voilà, reportage de Marion Gauthier. Le verdict sera donc rendu public entre 17h et 22h, mais peut-être au-delà, peut-être pendant la nuit. Il est midi 6.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Quelques jours après la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus garantir le droit à l'avortement à toutes les femmes américaines, Elisabeth Borne se saisit de la question de l'IVG en France. Déplacement au siège du planning familial à Paris pour la Première ministre. Alexandre Chauveau, bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Vous avez suivi cette visite où les questions sur les remous à l'Assemblée nationale ne sont jamais très loin, forcément.
Oui, alors d'abord le planning familial, c'est un déplacement qu'Elisabeth Borne a tenu à mettre à son agenda, évidemment en écho à la actualité aux États-Unis sur l'avortement, mais c'est aussi une manière de s'affirmer politiquement. La Première ministre soutient en effet publiquement l'idée d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, proposition portée par la NUP, mais aussi le groupe Renaissance à l'Assemblée.
C'est quelque chose qu'on va examiner. Hein. Je pense que ce qui est important, il y a cette proposition de loi qui est portée par différents groupes. On va trouver le meilleur chemin. L'objectif, il est clair. Il est vraiment de marquer que c'est un droit fondamental. Le droit des femmes à disposer librement de leur corps est un droit fondamental. On trouvera le bon chemin pour que ce soit inscrit dans la Constitution.
Elisabeth Borne a donc participé à une table ronde avec des représentantes d'associations et des professionnels de santé. Et ce, alors qu'un décret est paru ce matin au journal officiel indiquant qu'elle ne se soumettrait pas au vote de confiance après sa déclaration de politique générale. Celle-ci aura lieu le 5 juillet. Alors Elisabeth Borne indique qu'à ce stade, rien n'est arrêté et qu'elle prendra sa décision à l'issue des consultations avec les différents présidents de groupe. Rappelons que le vote de confiance n'est pas obligatoire, mais que tous les gouvernements s'y sont soumis depuis 1993. Si la confiance est votée, cela renforce la légitimité du gouvernement. Mais si tel n'est pas le cas, alors la Première ministre est contrainte de démissionner. D'où la réflexion de la Première ministre.
Forcément. Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Du côté de l'Assemblée nationale, de nouveaux postes clés hein, seront attribués aujourd'hui. Les 6 vice-présidents vont être élus, ainsi que les membres du bureau. Les 3 questeurs de l'Assemblée seront également désignés. Demain, place à l'élection sous haute tension du président de la Commission des Finances. Deuxième jour du sommet de l'OTAN à Madrid, en Espagne. Les 40 chefs d'État et de gouvernement réunis sont satisfaits de la levée du veto turc à l'adhésion future de la Suède et de la Finlande. Accord trouvé hier entre Ankara, Stockholm et Helsinki. On retrouve notre envoyé spécial à Madrid, William Molinier. Bonjour William.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est donc une alliance renforcée qui va poursuivre ces discussions qui portent principalement sur le soutien à apporter à l'Ukraine face à l'invasion russe.
Oui, et le sujet ukrainien est d'ailleurs au cœur de la première plénière qui est toujours en cours ici à Madrid. Échange à huis clos, les détails ne sont donc pas connus, mais le président Zelensky doit y intervenir en visioconférence en direct depuis Kiev. Les États membres de l'OTAN veulent d'ici la fin du sommet lui proposer un programme d'assistance complet pour l'aider à se défendre contre l'invasion russe. Les Norvégiens ont annoncé ce matin l'envoi de 3 batteries de lance-roquettes longue distance. Hier, les Allemands et les Néerlandais ont promis la livraison de 6 obusiers supplémentaires. Plus d'armes donc pour tenir dans la durée. L'Alliance planche aussi sur une réorganisation de ses forces. Elle veut muscler son flanc est face aux menaces russes. La force de réaction rapide va monter en puissance avec plus de 300 000 militaires d'alerte prêts à être déployés en urgence en cas d'agression d'un des membres. Ce matin, le président américain Joe Biden a annoncé l'envoi de nouveaux soldats et de capacités militaires en Pologne, en Roumanie et dans les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui s'inquiètent d'être, après l'Ukraine, les prochains sur la liste des objectifs de Vladimir Poutine.
William Molinier, en direct de Madrid, pour suivre donc pour Europe 1 ce sommet de l'OTAN. Merci William. On a beaucoup parlé de l'envie d'ailleurs des Français. Après les mois de confinement successifs, cela s'est ressenti dans le secteur de l'immobilier, forcément, et notamment avec ces nombreux urbains, habitants des grandes villes, qui ont par exemple, on en a beaucoup parlé, acheté des logements dans les villes moyennes ou à la campagne. Cette dynamique réjouissait les professionnels du secteur. Mais patatras, la guerre en Ukraine, la remontée des taux d'intérêt ou encore la pénurie de biens ont démotivé les acheteurs. Selon les chiffres de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, que vous avez consulté en exclusivité, Élise Dangean pour Europe 1, bonjour.
Bonjour Romain.
Un coup de frein est attendu cette année.
Eh oui, à la question « Pensez-vous que ce soit le bon moment d'acheter ?», près de 60% des Français répondaient « Oui, l'an dernier, contre 31% cette année, quasiment moitié moins. Les acquéreurs sont nettement moins nombreux, en particulier les primo-accédants, ceux qui font leur premier achat. Résultat, la FNAIM anticipe une baisse des transactions de 9% cette année par rapport à l'an dernier, ce qui représente environ 100 000 ventes en moins. Et cela a un impact direct sur le marché de la location, car moins de Français qui achètent, eh bien, ce sont plus de Français qui restent en location et donc un marché qui se sclérose. C'est pire pour le marché des résidences secondaires qui, après avoir connu une période florissante, s'effondre aujourd'hui avec une baisse de 20 points sur l'activité. En revanche, le mouvement de migration vers les villes moyennes se poursuit et s'observe sur les prix, alors qu'il baisse dans les métropoles, moins 0,3% par exemple à Lyon et même moins 2% à Paris. Ils explosent dans les plus petites villes, plus 12% à Brest, 13% à Pau, ou encore plus 15% à La Rochelle.
Élise Dangean, merci beaucoup Élise. Bon, le bon moment pour acheter un logement, c'est quand on en a besoin, hein, ceci dit.
Absolument.
La palisse n'aurait pas dit mieux. Si vous avez prévu d'acheter un logement prochainement et que vous craignez la flambée des prix, vous pouvez consulter dès maintenant une carte très précise sur le site europe1.fr. Elle révèle l'état actuel du marché immobilier région par région, europe1.fr. Vous y allez et vous trouverez toutes ces informations. Le violent incendie qui s'est déclaré en forêt près de la commune d'Opoul-Périos dans les Pyrénées-Orientales n'est toujours pas maîtrisé. 400 pompiers sont mobilisés et ce matin, 1080 hectares étaient déjà détruits. Les 81 vacanciers du camping du Bois des Pins, situé à proximité du feu, ont dû être évacués hier soir. Benjamin Peter, vous en avez rencontré certains, hein ?
Oui, j'ai croisé Christian et son épouse. Ils ont passé la nuit dans la salle polyvalente comme une trentaine de personnes évacuées du camping du Bois des Pins. Ils ont vu l'incendie progresser toute la journée d'hier.
Sur les coups de midi, on était à faire nos courses. On a dit, tiens, ça brûle. Et en l'espace d'un quart d'heure, toute la colline était enflammée, quoi. Très, très vite. On voyait plus rien, quoi.
Sandrine, elle habite en lisière des Pins. Elle aussi a été évacuée.
10 minutes avant qu'on parte, le feu arrivait ici. Fallait partir.
Elle a pu réintégrer sa maison vers 23h cette nuit, mais n'a pas réussi à trouver le sommeil.
Moi, j'ai 4 enfants, la plus petite à 12 ans, qui pleurait encore à minuit parce que, elle voyait le feu, elle voyait la fumée. Et c'est vrai que ça, c'était surtout pour eux qu'on avait le plus peur. J'espère que si c'est quelqu'un qui l'a mis, on réussira à le choper parce que c'est très dur pour tout le monde.
Un incendie d'origine criminelle avant même les investigations. Ici, personne n'en doute. Louis ne cache pas sa colère.
Si feu qui démarre en même temps, il n'y a pas de doute. Moi, pour moi, c'est des gens criminels. Ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait. Les dégâts qui sont causés. Il faudra combien d'années pour que ça reprenne et moi, je suis très en colère. C'est lamentable.
Voilà, alors ce matin, les vacanciers ont pu réintégrer leur mobilhome. Un hélicoptère a fait des reconnaissances pour permettre de redéployer les effectifs de pompiers qui espèrent réussir à fixer la totalité de l'incendie avant que le vent ne reprenne.
Alerte maximale concernant les réserves de sang. On le dit souvent, on le répète, l'établissement français du sang dégaine aujourd'hui pour la deuxième fois de son histoire un bulletin d'urgence vitale. Vous avez bien entendu, bulletin d'urgence vitale. Ça signifie que le niveau des stocks dans le pays est historiquement bas. Il manquerait environ 20 000 poches au total. L'établissement français du sang demande à l'ensemble des citoyens de se mobiliser massivement dans les 10 prochains jours en devenant donneur. On va sur le site de l'EFS. On s'inscrit, alerte maximale donc concernant les réserves de sang. On va être nombreux dans les trains et les gares cet été. Notez que le président de la SNCF nous recommande de porter le masque dans les gares et les trains. Pas d'obligation, pour le moment, pas d'obligation, mais une recommandation. À propos de Covid, le Tour de France débute vendredi, départ de Copenhague, départ de Copenhague au Danemark. La course va durer 3 semaines. Elle sera à vivre sur Europe 1, bien évidemment. Et alors que les coureurs espéraient retrouver une grande boucle sans les contraintes sanitaires des 2 précédentes éditions, eh bien la reprise économique fait monter une certaine angoisse chez les cyclistes sélectionnés. Martin Lange, en direct avec nous. Et bonjour Martin.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Oui, la reprise épidémique inquiète les cyclistes, hein ?
Oui, d'ailleurs, à 48 heures du départ, vous ne pouvez toujours pas consulter la liste définitive des coureurs sur le site du Tour. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est aujourd'hui que les 176 partants passent leur dernier test, comme le nordiste Adrien Petit, forcément fébrile.
Maintenant, c'est plus entre nos mains, c'est le destin qui décide, quoi. Comme je disais à ma femme, le temps que je ne serai pas sur la ligne de départ, on ne sait pas si je vais faire encore ce tour, en fait. Peut-être que je rentre dans 3 jours à la maison, on verra.
On pourrait donc apprendre de nouvelles défections dans les heures à venir. Hier, un premier forfait a été confirmé et il a fait le bonheur d'un Français. Le tout frais champion de France, Florian Sénéchal, remplace le Belge Tim De Clercq, malade. Et face à cette incertitude, l'UCI, la Fédération Internationale, a assoupli ses règles. Fini l'équipe mise hors course si 2 de ses membres sont testés positifs. Un coureur asymptomatique pourrait même être autorisé à continuer la grande boucle si un comité de médecins indépendant estime qu'il ne présente aucun risque. Bref, l'objectif, hein, c'est d'éviter une vague de forfaits et un Tour de France faussé par l'épidémie.
Merci beaucoup Martin. Martin Lange, donc à Copenhague, au Danemark. Départ du Tour de France vendredi prochain. La météo à présent avec... Non, c'est demain. Le départ, c'est demain, le départ du Tour. Qu'est-ce que je dis vendredi ? C'est demain, jeudi. La météo, Anissa Dadi, avec de plus en plus de nuages à l'ouest, Anissa. Hein.
Oui, c'est vrai que depuis ce matin, nous avons une petite perturbation qui arrive par l'ouest du pays. Et en effet, cet après-midi, les nuages vont gagner du terrain. Donc, entre les Hauts-de-France et les Pyrénées, tout le long de la façade atlantique, en passant évidemment par la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, eh bien là, nous avons une deuxième partie de journée bien plus grise, hein, des nuages plus nombreux, plus épais, avec quelques petites averses localisées. Partout ailleurs, sur les 2/3 est du pays, c'est grand soleil pour vous, petit bémol entre l'Alsace et les Alpes, où nous aurons quelques passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Les températures, 17 degrés à Brest, 19 à Lorient, 20 pour Vannes, 23 à Rouen, 24 degrés à Bordeaux, 27 pour Paris, Nice et Dijon, 28 à Strasbourg et 34 degrés cet après-midi à Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Dadi, voilà beaucoup d'actualités encore. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Tour de France, hein, il débute bien vendredi. Hein. Voilà, c'est le fin mot. Ça sera mon dernier mot, le Tour de France qui débute vendredi. Il est midi 16, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de cette ambiance électrique et ambiance électrique à l'Assemblée nationale. On en parle avec Ludovic Mendes, député Renaissance. Bonjour monsieur le député, merci.
Bonjour,
d'être avec nous. Avec Hugo Bernalicis, député NUPES Tendance et les filles du Nord. Bonjour, bonjour monsieur le député, merci également d'être avec nous. On se retrouve juste après la petite pause pub. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Liberté, égalité, fraternité, vous connaissez la devise de la France. Hier, un jeune député, la France Insoumise, a un peu oublié la fraternité. Il a refusé de serrer la main d'un député RN qui lui tendait la sienne. Vous avez été nombreux à être choqués, ça s'est passé à l'Assemblée nationale pendant le vote pour élire la présidente de l'Assemblée. On en parle dans Europe Midi parce que ça dénote un nouveau climat à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous choque ? Vous appelez le 3921 et on en parle, on sera dans un instant en direct avec Rebecca. On est également avec Ludovic Mendes, député Renaissance, donc c'est le nouveau nom de La République En Marche de la Moselle, et avec Hugo Bernalicis, député NUPES, la France Insoumise du Nord. Tiens, est-ce que vous, Hugo Bernalicis, vous n'êtes pas le plus jeune député de l'hémicycle.
Donc, j'ai vieilli en 5 ans.
Vous avez vieilli en 5 ans, comme nous tous. Donc vous n'étiez pas le jeune député qui a refusé de serrer la main. Mais est-ce que vous auriez serré la main de Philippe Ballard, qui est député RN, avec qui vous avez peut-être débattu sur des plateaux de télé ou dans des studios radio, et il vous l'attend comme on tend la main à quelqu'un pour le saluer. Est-ce que vous l'auriez serré cette main ou pas, vous ?
Non. Je ne l'ai pas fait en 5 ans, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui, parce que mon opposition au Rassemblement National, aux Zemmouriens, enfin à l'extrême droite en réalité, elle est totale et elle est complète. Mmh. Donc je ne leur conteste pas le fait d'avoir été élu, de siéger, de prendre la parole dans le micro, etc. Mais moi, il ne faut pas trop m'en demander. Il n'y a pas d'obligation à serrer la main. Il n'y a pas d'obligation, je ne sais
pas. Il
n'y
a pas d'obligation à serrer la main, il n'y a pas d'obligation à dire bonjour, il n'y a pas d'obligation à sourire, il n'y a pas d'obligation.
Oui, voilà.
Bon, vous avez raison.
Donc, à partir de ce moment-là...
C'est votre droit le plus strict. Après, il y a des règles de vie.
Non, mais il y a certains de nos collègues qui peuvent avoir des discussions ici ou là avec des députés du Rassemblement National. Ça n'a pas été mon cas personnel. Vous me posez la question à moi, je vous réponds. Que moi, je n'arrive pas, je ne peux pas, c'est trop pour moi.
Donc vous trouvez que votre collègue a bien fait.
Quand vous voyez la séance inaugurale qui commence avec le président le doyen d'âge qui nous fait le nostalgique de l'Algérie française, oui, j'ai encore moins envie de leur serrer la main et de montrer une quelconque accointance de près et de loin avec ces gens-là. Donc si on a pu signifier ça, et si Louis Boyard, mon collègue, jeune collègue, a pu signifier notre opposition totale au Rassemblement National, voilà une belle démonstration.
Ludovic Mendès, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous auriez serré la main du député RN ?
J'ai serré la main de toutes les personnes qui étaient là, c'est normal. Du moins, en tout cas pour moi, ça l'est. Dans le sens où il y a les êtres humains, il y a les idées politiques. Et il faut savoir aussi dépasser les idées politiques et respecter les êtres humains. D'ailleurs, même quand on n'est pas d'accord entre nous avec la France insoumise, on ne va pas se taper dessus derrière pour autant.
C'est-à-dire
qu'il faut aussi se respecter. Et le respect passe aussi par une poignée de main, passe aussi par une démarche républicaine. Alors certes, on peut et on doit contester les propos sur l'Algérie française qui ont été tenus hier.
On va en parler
mais
juste
au-delà
après.
De ça, mais au-delà de ça, sur le fonctionnement, je trouve ça un peu dommage. Oui, c'est chacun fait comme il a envie, c'est leur choix. C'est pas le mien. Moi, je suis plutôt dans la nuance et je pars du principe qu'il faut faire attention à ça. J'ai passé plus de 2 heures assis à côté d'Emmanuel Ménard. Emmanuel Ménard hier. Vous doutez bien
la femme de Robert Ménard.
La femme de Robert Ménard qui est non inscrite. Et ouais. Plutôt d'extrême droite, vu les positions qu'elle peut avoir. On a eu 5 ans dans l'hémicycle, parfois très tendus. Malgré tout, on était l'un à côté de l'autre. On a quand même fini par discuter parce qu'on est des êtres humains avant tout. Et puis nous, aux 15 parlementaires, par exemple, parce qu'on est une équipe de rugby, il y a des personnes de la France insoumise, il y a des personnes du RN. Quand moi, j'ai Alexis Corbière à ma droite...
Vous faites partie du 15 parlementaire.
Quand j'ai Alexis Corbière à ma droite et que j'ai Louis Alliot derrière moi, vous doutez bien qu'on se bat pour les mêmes couleurs et pour la même équipe. Donc oui, il faut faire un effort. Pour moi, il y a d'abord l'être humain, après il y a les idées politiques. Et on combat les idées politiques, mais on ne combat pas les hommes et les femmes.
Ça donne une bonne image du député Hugo Bernalicis. Vous ne trouvez pas que la société est assez tendue comme ça ? Il y a besoin d'en rajouter
Je ne sais pas, il n'a pas voulu lui serrer la main. On ne va pas non plus en faire une affaire d'État. Mais en tout cas, c'est la signification politique pour lui comme pour moi. C'était celle-là. Et après, ce n'est pas une ligne conductrice du groupe parlementaire. Comme je vous l'ai dit, il y a des collègues, et ça a été rappelé, dans le 15 parlementaire, qu'on joue ensemble. Bon, dans l'équipe de foot, on n'avait pas de fascistes. Donc au moins, comme ça, la question ne se posait pas. Mais en réalité... je crois que chacun doit pouvoir aussi faire comme il le sent et notre
c'est pas un détail ce qui s'est passé.
Non,
c'est
pas un détail,
c'est un message politique. Vous savez très bien ce que ça veut dire.
Je voulais traduire ce message politique, une opposition ferme, frontale, totale, aux thèses, aux idées, au fonctionnement et à ce que porte le Rassemblement national. Surtout qu'à la limite, je peux bien faire une distinction entre un espace privé où bon, on peut avoir une politesse, etc. Là, c'est filmé, c'est public, c'est dans la séance de l'Assemblée nationale. Donc oui, ça a une signification.
Mais justement,
et c'est
oui.
celle-ci, la signification qui est là. Alors après, on peut nous trouver impolis, tout ce que vous voulez. Mais enfin, sur l'échelle des reproches qu'on fait à la France insoumise et à la Nouvelle Union populaire, finalement, l'impolitesse, ça reste assez léger. Si c'est être impoli
aussi,
avec l'extrême droite, ça me va.
Je pense aussi à tous les parents qui expliquent à leurs enfants qu'il faut respecter l'adversaire au sport. Je pense que c'est bien moins anodin que ce que certains imaginent. Rebecca avec nous. Bonjour Rebecca, merci d'être avec nous. Vous nous appelez
de bonjour à vous.
Vous appelez de Paris et vous travaillez dans le secteur financier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors écoutez, il y a juste une petite précision que j'aimerais apporter. En fait, il ne s'agit pas juste d'un serrage de main habituel. Louis Boyard était scrutateur, donc il était au perchoir. Et en fait, c'était au vu et au su de tout le monde.
Ah bah oui.
Donc au début, donc c'est très différent en réalité. Donc là, effectivement, pour moi, on doit avoir un comportement républicain à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas et je ne vote pas le Rassemblement national, mais je pense qu'on doit se comporter en républicain quand on est dans l'hémicycle et on doit effectivement serrer la main de ses adversaires politiques. Ce n'est pas une façon de procéder. D'ailleurs, la France insoumise n'en est pas à son premier éclat de la sorte. Je me souviens très bien des panneaux très horrible, honteux, des bons débarras pour Manuel Valls lorsqu'il a quitté l'Assemblée nationale. Je trouve ça pathétique. Ce n'est pas une façon de se comporter. Vous pouvez avoir des adversaires politiques, mais vous pouvez vous comporter en être humain. Et ce n'est pas généralement ce que fait, malheureusement, les députés de la France insoumise.
Vous dites qu'on ne dit pas bon débarras quand on s'adresse à quelqu'un.
En fait, ils ont levé des panneaux quand Manuel Valls... Oui, quand Manuel Valls a quitté l'Assemblée nationale définitivement, ils ont levé tous des panneaux avec écrit « bon débarras » et je trouve ça assez pathétique. C'est, on n'est pas dans la cour d'école, l'Assemblée nationale n'est pas un cirque, c'est pas une foire, on y joue la vie des Français.
Hugo Bernalicis vous répond.
Oui, c'est vrai qu'on y joue la vie des Français et c'est là où je rappellerai et réitérerai notre opposition et à Manuel Valls et puis aussi aux députés du Rassemblement national parce qu'effectivement les décisions qui sont prises, elles peuvent être d'une violence inouïe. Quand il y a la réforme de l'assurance chômage qui est proposée par Elisabeth Borne à l'époque qui était au travail maintenant Premier ministre et qui fait que vous avez plus de quasiment 1,2 million de Français qui perdent concrètement à la fin du mois de l'argent alors qu'ils sont dans la difficulté et qu'ils n'ont plus d'emploi. Ouais, ça me semble un peu violent, ça me semble un peu pas très républicain, pour le dire de la sorte. Mais les brevets de républicanisme à géométrie variable, moi, ça commence à bien faire. Parce que là, pendant qu'on discute, on est en train d'attribuer les postes à l'Assemblée nationale. Et la majorité relative, rappelons-le, est en train de jouer à un jeu un peu dangereux, à dire que le RN a le droit à ci, a le droit à ça, et que par contre, les Insoumis, il faudrait bien qu'ils se calment un petit peu, même si nous sommes 150, finalement, dans cette nouvelle Union populaire et que nous présentons nos postes ensemble. Le jeu de troupe qui a été fait sur la Commission des finances, le fait qu'Éric Woerth, qui a rejoint la majorité, encore un qui a retourné sa veste, nous explique que plutôt Hitler que le Front populaire, quoi, concrètement. C'est ça la ligne politique aujourd'hui très trouble qu'entretient la majorité, ceux-là même qui a appelé au barrage, au républicanisme, au vote, à l'appel à la République sur le tarmac. Bon, chacun saura à la fin qui est du côté de la République, des principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, et qui s'oppose à l'extrême droite.
De tout ça, on va continuer à parler juste après la pub et le flash d'Émilie Dez. Merci beaucoup Rebecca de nous avoir appelé. Merci beaucoup, très bon après-midi à vous. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Merci d'être avec nous dans Europe Midi sur Europe 1. Dans un instant, le débat continue, bien sûr, mais tout de suite, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Et bonjour Romain, bonjour à tous. L'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre. Après 10 mois d'audience, 148 jours de débat, la lecture du délibéré pourrait débuter à partir de 17h. La perpétuité incompressible a été requise contre Salah Abdeslam, seul survivant du commando des attaques. Elisabeth Borne va-t-elle se soumettre à un vote de confiance après son discours de politique générale? Rien n'est encore tranché. Ce qui est sûr, c'est que le décret qui convoque le Parlement n'en fait pas mention. Je prendrai ma décision à l'issue des consultations avec les élus de l'opposition, a déclaré la Première ministre. Volodymyr Zelensky va s'adresser aux 30 pays membres de l'OTAN réunis à Madrid. La Russie est une menace directe, assure le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. La présence militaire américaine va être renforcée dans toute l'Europe. Seuls 31% des Français pensent que c'est le bon moment d'acheter, soit presque deux fois moins que l'année dernière, selon un sondage de la FNAIM. La faute à l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Europe 1 vous dévoile en exclusivité la carte des départements où les prix des logements ont le plus augmenté, à retrouver sur europe1.fr. Les voyageurs appelés à remettre le masque dans les transports et dans les gares. La reprise de l'épidémie de Covid se confirme avec 147 000 cas positifs enregistrés hier. Et puis du tennis, début du second tour aujourd'hui à Wimbledon. Le Français Hugo Humbert affronte le finaliste de Roland-Garros, Casper Ruud. Novak Djokovic sera opposé cet après-midi à l'Australien Thanasi Kokkinakis.
Merci beaucoup Émilie Dez. On vous retrouve dans une demi-heure à 13h pour un prochain Point Info. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Les premières heures de la nouvelle Assemblée nationale et déjà beaucoup de tension. La gauche a été très choquée par ce qu'a dit José González, le doyen député RN de 79 ans qui, dans son discours, a évoqué l'Algérie qu'il a quittée à regret il y a 60 ans. Interrogé ensuite par des journalistes, il n'a pas voulu répondre à une question sur les crimes de l'OAS. On en parle avec vous. On est également avec Ludovic Mendès, député Renaissance de la Moselle. Renaissance, c'est le nouveau nom de l'REM, La République En Marche. Et on est avec Hugo Bernalicis, député NUPES, tendance France Insoumise du Nord. Ludovic Mendès, est-ce que quelque chose vous choque dans ce qui a été dit à la tribune par ce député Rassemblement National, qui est le plus âgé, 79 ans?
Bien entendu, ça, c'est normal que ça choque tout le monde, faire l'apologie de l'Algérie française, d'expliquer qu'il y a laissé ses valeurs, sa famille, de surjouer la chose en faisant presque...
l'impression c'est ce que vous avez vu pleurer, en mais voyant ce qu'il avait,
l'a vu. Et quand on a écouté le débat, au début, on était plusieurs... Vous à se demander de qui il parlait, en fait.
Il surjouait quand il s'est arrêté, parce qu'il a dit « je suis pris par l'émotion » en disant...
C'est une impression, mais en tout cas, c'est une personne qui est au Rassemblement, du moins au Front National depuis 1970, après une rencontre avec Jean-Marie Le Pen. Il y est rentré pour des raisons de défense, de justement cette logique de dire que l'Algérie est française, que la France avait perdu ses valeurs, avait perdu sa grandeur. Donc, je ne suis pas étonné par ce qu'il a fait, et ça montre un peu ce que va faire... certains représentants du Rassemblement National à l'Assemblée, comme on peut l'avoir avec la France Insoumise, où on a vu des représentants NUPES qui ont dit à certains députés Rassemblement National, vous n'avez pas le droit de rentrer, on ne veut pas que vous rentrez dans l'Assemblée. Ils ont été élus démocratiquement. Maintenant, il faut assumer, il faut débattre.
Personne ne dit ça.
On a vu NUPES le faire. Donc c'est la réalité. C'est la réalité. Après, au-delà de ça...
Qu'est-ce que vous avez vu des députés NUPES qui disaient quoi ?
Non, une députée NUPES, pas des députés. J'ai dit une députée NUPES. Je ne sais plus son nom. Moi, je n'ai pas son nom, mais l'arrêté, elle est là. C'est après, il faudra qu'on se combatte par les
idées. Par contre, ça nous embête qu'ils soient là, les 89, ça c'est clair.
Mais ça embête tout le monde, rassurez-vous.
Je ne suis pas sûr.
Mais arrêtez de croire que notre objectif, c'est de faire monter le Front National, le Rassemblement National, parce que ça n'a aucune logique. D'ailleurs, vous y avez gagné aussi, donc vous vous trompez.
Ça a une logique pour la présidentielle. Vous êtes planté sur les législatives, mais ça a une logique pour la présidentielle.
On fait monter personne. Ils montent parce que les autres sont en train de mourir, justement. Les autres partis sont en train de mourir. Les LR sont en train de mourir. Le Parti est en train de mourir. Non, vous existez parce que le PS est en train de disparaître aussi. C'est aussi ça la réalité de la décomposition politique de notre pays. Après, on voit dans la manière de fonctionner, ça va être un ping-pong permanent entre le RN et LFI. On va de temps en temps être spectateur. Parfois, on participait à ce combat parce qu'on va combattre les idées, mais on combattra les hommes et les femmes, on ne les combat pas.
Olivier est avec nous. Olivier, cadre dans les Yvelines. Bonjour Olivier, merci d'avoir appelé le 39-21. Tension dès la première séance à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous redoutez que ça dure ?
Non, mais j'écoute votre débat, c'est complètement buflant. Le représentant de la France insoumise qui nous fait tout un truc sur la République, les républicains, les valeurs. Moi, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon serrer la paluche à Marine Le Pen en 2011 à Bruxelles. Ils ont même entamé un dialogue sur la campagne de 2012. Ça lui gênait pas pour autant donc de lui serrer la paluche à Marine Le Pen. Tout ça, c'est du flan. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain, ça va être des lois pour les Français. Des lois sur le pouvoir d'achat, par exemple. Et il va falloir sortir du jeu de la politique politicienne. Et on va voir comment les partis se comportent, parce qu'ils seront jugés très sévèrement par les Français, ces partis-là, quels qu'ils soient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Je suis favorable, par exemple, à la proportionnelle. Je trouve que les Français ont pour le coup, fait un truc extraordinaire, c'est qu'ils ont mis la proportionnelle avant l'heure. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a Macron, le président Macron qui décidera, puisqu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Donc, dans 6 mois, 1 an, si les choses ne fonctionnent pas, les amis, il va dissoudre. Et puis après, chacun prendra ses responsabilités. Moi, je pense, voilà ce qui s'est passé hier. Enfin, franchement, est-ce que ça intéresse franchement les Français le débat sur des choses qui se sont déroulées il y a 60 ans? Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, c'est de savoir comment ils vont pouvoir remplir leur frigo. Il y a 9 millions de gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. C'est ça qui intéresse aujourd'hui les Français. Alors moi, je veux dire qu'on refasse l'histoire comme j'entends ceux qui sont de ma génération. Moi, j'ai 46 ans. Oui. J'ai pas vécu ça. Qu'est-ce que je vais me permettre de dire? J'aurais dû faire ci, j'aurais fait ça. Moi, si j'aurais été résistant avant l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Oui, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman, quoi. Si j'avais été j'étais né en 17, on peut.
Donc aujourd'hui, moi ce que je regrette par contre, si vous me permettez, c'est juste simplement, quand on est dans une enceinte comme l'Assemblée nationale, un député qui vous dit bonjour et qui vous serre la main, pour moi, d'où qu'il vienne, on doit lui serrer la main. C'est républicain. Et ce qui s'est passé hier m'a dérangé un peu.
Oui, moi aussi, pour tout vous dire. Je trouve qu'on n'est pas tous d'accord. Il n'y a pas besoin de rajouter de la tension à la tension. On n'est pas tous d'accord. Et heureusement, je vais vous le dire, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. On le constate tous les jours sur l'antenne d'Europe 1 dans Europe Midi. On n'est pas obligé d'être désagréables les uns avec les autres. Merci Olivier. Exactement. Vous dites en clair, arrêtez avec votre cirque. Les députés, là, il va falloir un peu bosser.
Responsabilité
et concorde nationale. Merci Olivier. Hugo Bernalicis, votre commentaire sur ce que vous venez d'entendre.
Moi, je vous ai dit, c'est pas une ligne de groupe, c'est pas une ligne politique que de pas dire bonjour, pas serrer la main, je sais pas quoi. D'accord, chacun fait comme il le sent. Moi, mon arrière-grand-père est mort en déportation à Dachau. Reste un mémoire. Si toute ma famille qui a été pendant des années militant communiste, il y a des gens pour qui ça a eu des impacts dans leur famille, dans leur histoire personnelle, et je le sens pas. Voilà. Excusez-moi, je suis aussi un être humain. Je ne sens pas de copiner. Ou de serrer la main, ne serait-ce que serrer la main, à un membre du Rassemblement national. Mais là où monsieur a raison dans son intervention, c'est que c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de ce qu'on va faire pour le pays, pour les Français. Et là, je suis encore à nouveau en radical désaccord avec ce que propose l'extrême droite et la majorité aussi. D'ailleurs, ils peuvent se recouper sur un certain nombre de propositions, à savoir ne rien prendre aux riches. Laisser les profiteurs de crise, tous ceux qui profitent à la fois de la crise du Covid et de la crise actuellement sur les matières premières, etc., s'en mettre plein les poches sur le dos de l'inflation et donc sur le dos des Français.
On va aller sur le pouvoir d'achat. On va y aller très, très concrètement. Vous savez, je prépare toujours un petit peu l'émission juste après la publicité qui va être dans quelques instants. Je voudrais quelques questions un peu techniques, mais très importantes. Qui doit être élu président de la commission des finances? Normalement, on l'a dit mille fois, mais c'est un poste qui doit échoir à un membre de l'opposition. Là, il y a bagarre entre, en clair, le RN, qui dit on a le plus gros groupe, et la NUPES, qui effectivement n'est pas un groupe au sens très réglementaire du terme. Ludovic Mendes,
il y en a quatre. Il y a quatre groupes et on est 150 à nous quatre.
Voilà. Je vais faire très simple. Voilà. Elle doit revenir à l'opposition et à la plus grande opposition. Maintenant, ils se débrouillent entre eux.
Ah, vous voulez pas prendre...
On ne prendra pas part au vote. On ne sera même, s'il faut, pas présent dans la salle. Pour montrer que notre responsabilité à nous, c'est de les laisser décider entre eux.
Avec ils quelles conséquences
pu, ben, c'est à eux de choisir la conséquence qu'ils vont avoir. C'est les oppositions qui vont décider de s'allier ou pas pour élire un de leurs présidents ou président de commission. Ils avaient le choix d'ailleurs de pouvoir présenter une femme qui était
donc
Valérie Rabault.
Donc la balle est dans le camp des Républicains.
Qui était Valérie Rabault. Et malheureusement, ils ont choisi plutôt Éric Coquerel. Mmh. Il y a, je crois, une candidature
Rabault, une
LR. Ouais. Oui, il y a une candidature LR, il y a une candidature Rassemblement National. Maintenant, c'est à eux de décider qui veulent mettre à la tête de cette commission. Nous, on joue le jeu habituel de dire on la laisse aux oppositions et on n'en prendra pas parti.
Hugo Bernalicis, Éric Coquerel est le candidat.
C'est déjà un bon point.
Bah,
on verra, excusez-moi, mais on verra jeudi, demain, ce qu'il en est concrètement, parce que tant que je ne l'ai pas vu, moi, les coups de théâtre,
c'est la consigne, on va la respecter.
Bah, j'espère
on
que
l'a
ce sera
décidé
le cas.
Tous ensemble.
J'espère que ce sera le cas, parce qu'il y a 5 ans, souvenez-vous, à l'élection des vice-présidents, des bureaux, des secrétariats, vous n'avez pas respecté les propres consignes. Ce n'est pas nous qui en avons fait les frais, c'était les Républicains avec Thierry Soler qui avait été élu. J'ai pu vous souvenir le pataquès. Donc ça, vous n'êtes pas à votre premier coup de Trafalgar.
Et le lendemain, on a changé, donc vous inquiétez pas, on va quand même respecter
le lendemain, ça a pris 6 mois.
Non, c'est que les LR n'étaient pas capables de se mettre d'accord. Ne mettez pas toujours la faute sur les autres. Depuis tout à l'heure, vous faites que ça dans vos propos. C'est toujours la faute des autres.
Ah bah
mais mettez-vous
vôtre,
aussi en responsabilité. Vous avez un choix dans votre intergroupe, parce que ce n'est pas un parti
finir
politique.
Propos, maintenant,
vous verrez.
Propos.
Oui, mais je vous laisse
Éric
finir mon propos.
Éric Coquerel est le candidat unique de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à la Commission des finances. Le seul cas de figure où nous ne l'aurions pas, et je ne vois pas comment ça arriverait, c'est qu'il y ait 100% des députés des Républicains qui assument de voter avec le Rassemblement national et de faire élire à la tête de la Commission des finances le Rassemblement national. Et il faudrait en plus que des non-inscrits, un ou deux non-inscrits, penchent aussi de ce côté de la balance.
Certains redoutent
donc,
que...
Chacun prendra ses responsabilités, bon. Ça c'est clair. Ceux qui veulent voter avec le RN ou faire élire le RN, eh ben, en assumeront les conséquences.
Certains redoutent qu'avec la présidence de la Commission des Finances, la France Insoumise déclenche des contrôles fiscaux sur des gens qui n'aiment
pas
trop.
Oui, bien sûr. Alors pas sur des gens qu'on n'aime pas trop, c'est pas ça le sujet. On n'est pas là pour faire la tête du client. On peut suspecter les précédents de ne pas avoir déclenché des enquêtes sur leurs amis, ça c'est sûr. On peut le penser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'attaquer à l'évasion et à la fraude fiscale. Donc oui, ce sera un fer de lance, ce sera une bataille politique que nous allons mener. Quand vous voyez le procès qu'il y a eu, alors ça se termine par une convention judiciaire d'intérêt public, avec McDonald's, qui a signé un chèque de plus d'un milliard d'euros aux finances publiques, eh ben on est content qu'il y ait des contrôles fiscaux et que l'argent rentre dans les caisses et que les gens, que les entreprises en question... payent leurs impôts comme n'importe quel Français. J'ai même envie de dire, il faudrait même qu'ils en payent un peu plus parce qu'ils s'en mettent un peu plus dans les poches que n'importe quel Français. Bon. Donc, oui, ce sera un sujet. J'ai rendu 2 rapports, moi, sur la lutte contre la délinquance économique et financière sur la mandature précédente, comme quoi on n'a pas attendu qui que ce soit pour se mettre au travail. Et en réalité, vous avez plus de 80 milliards d'euros qui nous manquent dans les caisses de l'État et des moyens mis en œuvre par l'État qui sont extrêmement faibles et résiduels face à cette somme d'argent qui nous manque. Et après, on va vous expliquer que, bah, vous comprenez, c'est compliqué d'aller faire augmenter les minima sociaux pour tout le monde de plus de 5% parce qu'il n'y a pas de sous.
Et vous
avez
vous
Bruno Le Maire qui vous
explique.
Vous opposez
toujours les riches et les pauvres, c'est
hallucinant. Mais oui, il y a les riches et les pauvres.
Ils n'ont que ça, en fait, à la
bouche. Oui, il y a les riches et les pauvres.
Mais non.
Ils se sont enrichis de 100%. Ils sont passés à 1000 milliards de patrimoine, les plus riches dans le pays.
Vous détestez les riches.
Non,
on en a besoin aussi. Ils créent des richesses.
Je déteste l'accumulation de richesses.
Ils créent des richesses aussi.
Non,
ils créent des entreprises. Ils créent de la distribution.
Et ils ne partagent rien.
Ils accumulent aussi.
On est dans un temps de partage.
Non, on ne pouvait pas dire qu'ils ne partagent.
Si c'est difficile, alors il faut
ils
partager.
Ils sont enfin revenus dans notre pays, ils
c'est
réinvestissent dans notre pays.
C'est pas vrai.
Mais si, mais arrêtez de dire toujours que c'est pas vrai.
Mais parce que c'est pas
c'est
vrai.
C'est pas vrai selon votre point de vue, mais
non,
la réalité...
Non, pas selon mon point de vue, selon le point de vue des chiffres.
La réalité des chiffres, c'est qu'on crée...
L'essentiel des dividendes ne sont pas remis dans de l'investissement, ni dans l'outil productif.
Et on a changé les lois justement pour qu'il y ait plus de redistribution dans l'entreprise.
Et ben ça marche pas,
et qu'il y ait plus de redistribution
figurez-vous.
Dans... Si, ça marche parce qu'on a recréé 30 000 emplois industriels, on a réinstallé de l'emploi sur nos territoires, et c'est grâce à des personnes qui ont des moyens financiers. Assumez-le aussi.
On continue à en parler dans un instant. Il est 1h moins le quart, 12h45. Bon appétit si vous êtes à table, évidemment. Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Toujours beaucoup de débats. Tous les avis sont là. Restez bien avec nous. 39-21 pour passer à l'antenne. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le projet de loi pouvoir d'achat, Bruno Le Maire, n'exclut pas de maintenir l'aide de 18 centimes sur le litre d'essence jusqu'à la fin de l'année. Quelle est l'urgence? On en parle avec vous au 39-21, avec Ludovic Mendès, député Renaissance de la Moselle, et avec Hugo Bernalicis, député NUPES, tendance LFI du Nord. Où est la priorité? Sur quoi? J'ai l'impression que c'est le concours Lépine, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Chacun y va de sa petite proposition. Il faut dire, bon, l'époque est comme ça, la majorité est relative, on l'a dit plusieurs fois. Quelle est la priorité? Autour de quoi doit se bâtir ce texte, monsieur le député de la majorité relative?
Disons que la plus grosse inflation aujourd'hui, elle est quand même sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Donc là, c'est maintenir les boucliers, maintenir les fameux 18 centimes, en demandant aussi à Total Energy de faire un effort complémentaire. Donc ça, c'est ce qui a été fait par le gouvernement. Après, c'est le reste du budget. Donc ça est en lien avec le logement, donc limiter la hausse des loyers et surtout le panier, c'est-à-dire le panier moyen des différentes familles, des produits de première nécessité. Donc il faut améliorer la capacité d'achat, donc les salaires, les indemnités pour les fonctionnaires et revaloriser les retraites pour que chacun puisse avoir cette capacité de gérer cette inflation au quotidien. Et après, c'est dans la durée de faire en sorte que dans notre pays, on continue à faire descendre le nombre de personnes qui sont au SMIC parce qu'elles sont mieux rémunérées que le salaire minimal. Il n'y en a jamais eu aussi peu dans notre pays que ce début d'année, alors par rapport aux 10 ou 15 même dernières années. Donc il faut améliorer la qualité des salaires, améliorer l'accompagnement aussi de ce qui est fait par l'État. Il y a des petits détails qui sont faits à droite, à gauche, mais sur la baisse des impôts, c'était le retrait de la taxe d'habitation, prochainement la taxe sur la redevance audiovisuelle. Comment vous les augmentez, les salaires ? Alors ça, c'est en lien avec l'entreprise, il faut qu'on regarde, parce que si on augmente tous les salaires d'un coup, on crée une surinflation. Donc, par exemple, augmenter d'un seul coup les salaires sans que l'État n'apporte non plus sur les cotisations sociales ou patronales ou la CSG, on est sûr que c'est l'entreprise qui va payer. Si l'entreprise paye, elle va être obligée d'augmenter ses tarifs. Donc, il y aura une surinflation. Ou alors, elle dit, bon, je veux bien ne pas augmenter mes tarifs, par contre, je vais licencier. Et on ne peut pas prendre ce risque, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de création d'emplois. Et il faut faire en sorte aussi que les personnes qui sont éloignées de l'emploi retrouve un emploi, parce qu'il y a aussi la redistribution de richesses avec la fameuse dite prime Macron, qui va passer jusqu'à 6 000 euros. Il y a plus de redistribution aussi et d'obligations de redistribution au niveau de tout ce qui est partage de bénéfices des entreprises, et c'est un investissement complémentaire. Et donc là, on sera un peu sur tout. On sera sur l'énergie, on sera sur le panier, sur le salaire et sur les loyers, ce qui n'est pas négligeable.
On n'en est pas encore à l'inflation en Espagne. Plus de 10% sur un an en Espagne.
On a la plus basse inflation du monde aujourd'hui.
On ne va pas s'en sortir comme ça d'un coup de baguette magique. On est autour de 5%. Il faut des solutions pérennes et finançables. Réaliste, Hugo Bernalicis.
Ouais, tout à fait, vous avez raison, il faut que ce soit finançable et réaliste, mais moyennant partage, on peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Quand vous voyez que les dividendes attendus pour l'année 2021 vont s'élever à hauteur de 80 milliards d'euros, je crois que Bruno Le Maire cherchait pendant la campagne des législatives 80 milliards d'euros, c'est ce qu'ils ont annoncé à la Commission européenne pour rembourser un certain nombre de dettes et les engagements que la France a pris.
Et vous voulez prendre les dividendes des actionnaires?
Bah ouais, par exemple, on pourrait dire que c'est la crise.
Les petits actionnaires, on en fait quoi?
Mais les dividendes, ça a été gelé des fois dans l'histoire. D'ailleurs, pendant le Covid,
au tout début, c'était plafonné.
Il n'y a eu que 20 milliards d'euros de distribués. Mais ça va, le gavage, ça suffit quoi.
Mais quand on gagne 1500 euros, qu'on a besoin justement de ces actions qu'on a investies, vous allez leur enlever.
C'est pas leur enlever. C'est qu'on va pas leur donner.
Il n'y a que des grands actionnaires. Il y a plein de petits
le dividende. Non, mais attendez, le dividende, vous dites pas leur enlever leur action.
Mais il n'y a plus un actionnaire qui va miser un copec sur la France. Mais là, la réalité, c'est ça. Il faut être sérieux, j'ai bien compris que
pour vous, vos amis, ce sont les riches et qu'il était hors de question de les mettre à contribution.
Moi, je pense à mon père ou à ma mère.
Attendez, arrêtez dans la caricature.
Mais c'est la réalité.
Le petit spéculateur qui achète des actions, qui lui permet combien de gens dans le pays ont des actions? Combien de gens dans le pays ont des actions? Ah ouais, plus que je ne le crois. Alors c'est combien par rapport au smicard? Par rapport au smicard?
Mais même des smicards ont des actions. En fait, ils peuvent avoir des actions de leur propre entreprise quand ils vivent dans des grands groupes. Prenons le groupe 26,
vous avez raison
EDF,
à tout,
GDF.
Tout va bien, mais ça non, va être génial. Et il ne faut pas prendre au riche. Mais si, parce que qu'est-ce que dit Bruno Le Maire à Total?
Vous êtes dans le cliché, c'est tout.
Il faut qu'il fasse un effort. Waouh, super. Alors là, le patron de Total a dû trembler. de se dire, oh mon Dieu, que dit Bruno Le Maire à la radio, comment vais-je faire? Va falloir que je fasse un effort, que je me serre la ceinture. La dernière fois qu'ils ont demandé ça, Total a encore augmenté ses profits sur, justement, sur le dos de l'inflation et sur le dos des gens. Et
on mais fait une aide. Jamais confiance à,
Moi, je fais regarder nos voisins anglais.
Responsabilité.
Nos voisins anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une taxe exceptionnelle sur les pétroliers. Alors, est-ce que c'est le communisme? Est-ce que ce sont les insoumis au pouvoir là-bas? J'ai quand même pas l'impression.
C'est ultra-libéral.
Et pourtant, bah oui, c'est ultra-libéral, mais ils assument quand même de faire une ponction sur le capital parce qu'il y en a besoin de partager d'autre. Dans la situation
on
actuelle.
On leur rembourse pas la santé, ils ont pas les services publics, ils ont pas le transport.
Mais ça vous dérange que je développe un propos?
Vous choisissez.
Est-ce que ça vous dérange que je développe un propos? J'ai eu très envie de vous couper juste avant et je l'ai pas fait.
C'est
important
de rappeler pour les personnes qui nous écoutent que c'est pas si simple que ça.
Je peux finir une phrase? On connaît la technique de parler sur l'autre pour qu'on entende rien à la radio. Le blocage des prix. Il faut bloquer les prix. C'est ça qui permet de tenir les deux bouts. Si vous faites que augmenter les salaires, alors effectivement, vous prenez le risque qu'il y ait une surinflation. Si vous faites que bloquer les prix, vous prenez un autre risque, c'est que les salaires stagnent, etc., et que ce soit aussi problématique. Il faut faire les deux, tenir les deux bouts. Bloquer les prix, c'est ça qui permet de faire en sorte de dire à Total, c'est vous qui paierez la différence parce qu'on l'a décidé démocratiquement et qu'il faut partager dans ce pays et que les gens ont besoin de pouvoir rouler convenablement. Et puis Emmanuel Macron a remarqué quand même que c'était peut-être pas si déconnant ce que proposait Jean-Luc Mélenchon quand il disait qu'il fallait que l'Europe parle d'une seule voix pour acheter du pétrole à un prix réglé à l'échelle du monde. Et il s'en est même enorgueilli dans sa conversation avec Biden, là, en nous expliquant de, bah, je sais pas combien de barils, etc. Enfin, cette scène surréaliste, encore une fois. Mais vous voyez bien qu'il faut réguler, réglementer, pas faire des chèques ici, des centimes par là, etc., qui fait qu'on court après l'inflation. Et c'est ce qui fera que ce gouvernement qui n'a pas la confiance de l'Assemblée, ira à sa perte. Et les Français...
On
avec.
Est majoritaire, vous l'oubliez quand même.
Sophie nous appelle du Morbihan. Vous avez 56 ans, Sophie. Vous vivez avec l'allocation adulte handicapé, l'AAH. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être
oui,
avec
bonjour
nous.
Bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être avec bonjour. Nous dans Europe Midi. Je vis avec 900 euros par mois. Je ne peux plus faire le plein d'essence, donc je ne peux plus me déplacer. C'est ce que vous nous dites.
Bah oui, exactement. Je touche effectivement donc 919 euros, j'ai regardé pour le mois dernier. Une fois toutes mes charges fixes, donc loyer, assurance, enfin tout compris, il me reste à peine 360 euros. Là-dessus, je dois donc manger, me vêtir et pour l'essence. Alors l'essence, j'ai une voiture essence, pas du diesel. Et la dernière fois, j'ai pas pu faire le plein. J'ai mis 50 euros et le litre était à 2,21 €. Donc je fais pas le mois avec ça, avec un plein. En plus, je vis à la campagne. Donc pour aller faire mes courses, je dois faire 10 km minimum. Donc en fait, je regroupe mes sorties. Pour aller par exemple à la pharmacie, ça va être le même jour que pour aller faire les courses. Voilà.
Ah oui,
quant à mes courses... je suis obligée de le faire au drive parce que je me suis obligée à le faire au drive pour ne pas être tentée d'acheter tout et n'importe quoi dans les magasins parce que je n'ai pas les moyens et donc je limite tout. J'ai pratiquement plus de viande maintenant. Je deviens végétarienne sans le vouloir. Plus de poisson parce que c'est horriblement cher. Ça a même dépassé la viande. Les légumes, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est un peu compliqué quand vous voyez le prix au kilo des fruits et des légumes. Et donc en fait c'est pratiquement de la malbouffe sans arrêt quoi. Et sinon pas de cinéma, pas de restaurant, pas de loisirs. Les livres ce sont des livres d'occasion. Le coiffeur c'est une fois tous les 3 mois. Pas de vacances bien sûr. Là j'entends parler de gens qui partent en vacances. Moi ça sera pas de vacances. Bon j'ai la chance de vivre à la campagne en Bretagne donc ça va. Je vis pas, je survis.
Oui vous voilà. Vivez.
C'est vraiment. J'ai l'impression de vivre à part de la société.
C'est ce qu'on comprend. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné, Sophie, depuis le Morbihan. Je voulais absolument vous avoir parce que voilà, quand on parle de ce qui se passe à l'Assemblée, c'est pour des gens comme Sophie. D'autres, faut le rappeler, hein, y a des personnes qui vivent bien. On est nombreux, voilà. Et il y a des personnes qui, comme Sophie, ont de grandes, grandes difficultés. Et vos lois,
je dirais, c'est une situation encore spécifique parce qu'elle est en situation de handicap.
Donc loi, c'est notamment pour les personnes comme Sophie. Merci beaucoup d'être venus tous les
Merci
deux. Ludovic Mendès, député
Merci.
Renaissance et Hugo Bernalicis, député NUPES, la France Insoumise. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous. Et on se retrouve demain, dès midi, pour un nouvel Europe Midi. On est un petit peu en retard, un peu comme tous les jours, j'allais dire. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour Romain, bonjour
et
à tous.
Dans un instant, c'est La France Bouge.
Oui, on va parler d'hydrogène aujourd'hui. C'est un sujet très vaste. Est-ce que l'hydrogène, c'est vraiment propre? Qu'est-ce qu'on fait vraiment avec cet hydrogène dont on parle beaucoup? Eh bien, on en parle dans un instant dans La France Bouge.